Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert.
Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ces deux heures ensemble avec vous sur Sud Radio, 10h midi, 10h 11h, les médias avec Gilles Gansman et Rémi Pernelet. Bonjour.
Bonjour madame.
Et
bonjour
Valérie. À 11h, l'actualité, évidemment l'actualité est largement dominée par l'audition d'Alexandre Benalla en ce moment même par les sénateurs. Dites-nous ce que vous en pensez, est-ce que c'est justifié? Il y a eu un sondage qui nous dit que vous êtes 78% à estimer que cette commission d'enquête est justifié. On attend vos réactions 0826 300 300. On aura tout à l'heure avec nous Stéphane Simon, le producteur de Thierry Ardisson. On va revenir avec lui sur la très vive polémique entre Éric Zemmour et la chroniqueuse Absa Toussi. On vous dira tout dans un instant. On parlera également de couple parfait avec Elsa Fayère. Et puis on reviendra sur le bug, l'énorme bug hier, le scandale, c'est un scandale national avec la diffusion du match de foot hier soir sur RMC Sport. Que beaucoup d'entre vous n'ont pas pu voir. Donc Rémi va faire le point sur cette affaire extrêmement grave. Oui, le PONG avec le PSG qui a perdu. Et on va commencer avec les audiences.
Sud Radio, le 10h midi. Les médias, découvrons les audiences.
Alors, on commence avec le carton.
Eh bien oui, le carton hier, c'est encore pour Good Doctor. 6 432 000 téléspectateurs, incroyable. 28,5% de part de marché. C'est une légère progression par rapport à la semaine dernière. C'est toujours un carton pour la nouvelle série médicale de TF1 avec Sean, vous savez, le médecin autiste. Ouais. Et hier, d'ailleurs, il traitait un jeune malade qui était lui aussi autiste. C'est très très bien fait, ça a très très bien marché.
D'accord. Le Gadin ?
Le Gadin, c'est pour 3 hommes et un couffin sur France 2. Seulement 1 370 000 téléspectateurs.
Mais vous avez regardé.
6,8% de part de marché pour la pièce de Colin Serrault, mise en scène par elle-même avec Alex Vizorek, Bruno Sanchez. C'est un vrai flop pour le théâtre en direct hier. À titre de comparaison, en janvier 2017, LSM avec Muriel Robin avait réuni 3 674 000 téléspectateurs. En 2016, 3 600 000 pour une pièce avec Patrick Chesnais. Le record, ça reste à Je préfère qu'on reste amis avec Michel Barnier, 4,8 millions de téléspectateurs, toujours en 2015.
Vous, donc vous avez regardé, c'est un vrai gadin. Vous étiez sur le foot.
Non, mais j'ai. Sur le foot, je vous en parlerai tout à l'heure. Mais. Oui, j'ai regardé. Enfin,
C'était juste irregardable. C'était juste.
Il y a quand même 1 200 000 personnes qui ont regardé.
Enfin, 1 300 000 personnes.
Oui, la pièce match à la radio.
Non, mais la pièce est une pièce qui avait tout pour fonctionner, sauf qu'elle a été complètement remise en scène, réactualisée. Et effectivement, manifestement, ça n'a pas marché.
Oh, c'était irregardable.
Allez, la surprise.
La surprise, c'est le très bon score du documentaire Daesh dans le cerveau du monstre sur Arte. 1 047 000 téléspectateurs hier. Près du double du doc de la semaine précédente sur En prison pour rien. Donc, c'est un très bon score. Puis il y a une autre surprise, ce sont les audiences extrêmement proches des deux JT. 4 793 000 téléspectateurs pour TF1 avec Gilles Boulot. 4 676 000 téléspectateurs pour Anne-Sophie Lapix sur France 2. Seulement 120 000 téléspectateurs d'écart. Ça fait très longtemps que ça n'était pas arrivé.
Et puis dans notre... Alors, qui a gagné hier?
Tout le monde a gagné hier. Docteur premier. Ouais. Et puis, quand même à signaler, je ne l'ai pas dit, l'excellent téléfilm Les Illettrés est arrivé deuxième. 2 828 000 téléspectateurs, un très très bon score également. Et puis même le doc a fait un bon score, 1 188 000 téléspectateurs.
6 à 1. Très bien.
6 à 1 quoi ?
J'ai 6, vous avez.
Mais non, mais pas du tout. On va reprendre les comptes à zéro la semaine prochaine.
Je pense que compter non plus, vous n'y arrivez pas bien.
Non. Allez, on va passer à notre auditeur qui nous raconte ce qu'il a regardé hier soir. C'est Steve. Bonjour Steve.
Bonjour à tous.
Bonjour. Alors qu'est-ce que vous avez regardé vous hier ?
Alors hier, j'ai regardé Le Monde en face. Sur la 5,
oui. Donc, dans la tête de Daesh, oui, c'était remarquable.
Exactement. Ouais, très très bon reportage édifiant, en plus basé sur des archives retrouvées sur un disque dur dans des ruines d'une ville en Libye. Hyper intéressant, très très inquiétant, parce que on a peut-être coupé la tête de l'hydre, mais il y a d'autres têtes qui repoussent ailleurs. Donc voilà, et suivi en plus d'un débat derrière qui était hyper passionnant, animé par Marina Carrère d'Ancos, si mes souvenirs sont bons, si je n'écorche pas son nom.
Carrère d'Ancos.
C'est ça, exactement. C'était hyper intéressant.
C'est vrai que c'était passionnant.
Qu'est-ce que vous avez appris dans
qu'est-ce que vous avez surpris? tout le fonctionnement, comment c'est hiérarchisé, on peut se dire que c'est bon, certes c'est barbare sur toutes les vidéos, etc. qu'on voit, mais derrière il y a un vrai fonctionnement, un système un peu de raquettes, de taxes, etc. C'est super intéressant parce que voilà, on découvre le fonctionnement, comment sont assouvies les populations entières, et notamment en Libye, hein, qui est un théâtre second après l'Irak et la Syrie. C'est aux portes de l'Europe, donc on peut se dire quand même on peut être en état de s'inquiéter. Et surtout le témoignage d'une des grosses têtes pensantes sur place, qui commandait jusqu'à 1300 personnes et qui expliquait sans vergogne le châtiment imposé aux homosexuels. Hallucinant, mais nécessaire.
Oui, nécessaire. Et ça se termine en disant que y a d'autres djihadistes, autre génération de djihadistes qui est en train d'arriver. C'est ce qui est le plus inquiétant dans ce documentaire. Merci beaucoup, Steve, d'être intervenu et de regarder la télévision et de nous raconter ce que vous avez aimé. Et c'est vrai que si vous ne l'avez pas vu, regardez ce documentaire en replay. C'est disponible sur le site France Télévisions. C'est vraiment un documentaire exceptionnel. Allez, on va passer au zapping.
Sud Radio, le 10h midi, les médias, l'instant zapping.
Alors une fois, un regard bleu s'en est allé à 94 ans, Jean Pia, qui avait été évidemment célèbre pour son rôle des rois maudits, c'est un peu le plus bel la vie de 72, et une voix et un timbre qu'on entendait beaucoup, y compris dans le rôle de Gandalf, le film, vous savez, Le Seigneur des Anneaux, qui est passé récemment à la télévision, ça donnait ça Jean Pia.
Ne le mettez pas au doigt. Car les serviteurs du Seigneur des Ténèbres sont attirés par son pouvoir. Surtout, n'oubliez pas, Frodon. L'anneau essaie de revenir à son maître. Il veut être retrouvé.
Eh oui.
Oui, les rois maudits, ça a marqué toute une génération.
C'était un grand feuilleton sur l'ORTF à l'époque, et qui avait, où lui, il y avait le rôle principal. Je ne l'ai pas vu en direct à cette époque-là.
Oui.
Mais voilà, et puis aussi, pour un clin d'œil, parce qu'il a marqué aussi d'autres générations, vous savez qu'il était aussi la voix de Scar dans Le Roi Lion.
Ah non.
Ça donnait ça.
D'accord, au pouvoir de réflexion, vole plus bas qu'un derrière de cochon. Mais bête comme vous êtes.
Je continue sur mathématiques, vous allez voir quel talent. C'est une voix qui vient de loin, d'outre-tombre. Alors, les services de l'Assemblée nationale ont retrouvé le seul film sonore connu à ce jour, avec la voix de Georges Clémenceau, le fameux tigre. Et vous allez voir qu'à l'époque, il n'avait pas l'air commode.
C'est fini. Dépêchez-vous, vous savez, moi je ne peux pas continuer comme ça. C'est pas possible. Vous me mettez là au soleil, ça ne vaut rien.
Écoutez, maintenant c'est fini. Ça doit être pour prendre nos paroles, ça.
C'est très drôle, regardez-le sur les réseaux sociaux. C'est Lina qui a mis en ligne cette petite vidéo où on voit Georges Clémenceau à la fin de sa vie. Alors il voit un micro et on a mal entendu, mais il dit, je crois que c'est ce qui veut prendre nos voix.
Exactement. Voilà. Quand ils sont dans un champ de fleurs, ils se demandent ce que c'est une vidéo assez étonnante. Et puis Rémi va y revenir dans un instant. Alors hier, la diffusion de Liverpool PSG, pour le moins chaotique sur RMC Sport, je vais laisser Rémi en parler. Du coup, tout le monde s'est rabattu sur l'équipe TV, mais qui commentait le match
sans image.
Et voici un moment clé d'un but de Liverpool que vous ne verrez pas, mais que vous pouvez entendre.
Allez, on y va. 36e but de jeu. Attention.
Allez, il va s'élancer dans quelques instants. Monsieur Tchartier a sifflé. Miller qui s'élance, qui va frapper.
2-0.
C'est 2-0. C'est à l'intérieur. Alphonse Areola avait plongé du bon côté, mais il n'a pas touché ce ballon. 2-0 pour Liverpool. Le but sur penalty, James Miller.
Mais quelle soirée. On voit Liverpool. Ils sont tous là encore. Ils viennent tous. Dans le cop, dans les tribunes. C'est de la folie ici. On voit les supporters qui sont à mettre.
On s'y croirait. C'était sur l'équipe.
C'était assez bien fait. C'est-à-dire qu'en fait, les deux commentateurs sont debout. Et l'un des deux commentateurs, c'est, je crois, Jean Messeguet, qui, alors, lui, s'agite. On a l'impression qu'il danse quasiment devant. Parce qu'en fait, ils sont en train de regarder des téléviseurs, tout simplement.
C'est un vrai spectacle.
C'est intéressant de savoir le score de l'équipe TV. Vous l'avez ou pas?
Non, pas encore.
On le sait après 11h.
Vous savez, l'équipe TV, comme les chaînes d'infos continues, on a les scores après 11h. Donc, on l'aura pour l'émission de demain.
Il faudra voir le score qu'ils ont fait.
Je savais que vous alliez me demander ça.
Allez, on va se retrouver dans un instant. Restez avec nous sur Sud Radio et on va en parler justement de cette catastrophe hier soir avec cette diffusion ratée sur RMC Sport de ce match de foot. Appelez-nous 0826 300 300 si vous êtes vous aussi en colère. À tout de suite.
Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert.
Dans un instant, nous reviendrons sur la polémique entre Apsa Toussi et Éric Zemmour, et puis avec le producteur également. Elle est vraiment dans un affrontement assez violent via les réseaux sociaux avec Thierry Ardisson. On y reviendra dans un instant. Mais je voulais que nous parlions, Rémi Pernelet, de ce qui s'est passé hier soir sur RMC Sport.
Ben oui, Valérie, hier soir, c'était donc les premiers matchs de la saison 2018-2019 de la Champions League, avec notamment un très attendu Liverpool-PSG à Liverpool. Puis c'était aussi les premiers matchs de Champions League sur les nouvelles chaînes RMC Sport de SFR. Oui, parce que depuis cette saison, c'est SFR qui détient les droits de la très recherchée Ligue des Champions. Le groupe de Patrick Drahi a investi pour 4 ans 1,4 milliard d'euros pour les deux épreuves, Champions League et Europa League. Deux fois plus que ce que payaient Canal+ et beIN Sport pour les diffuser les années précédentes. Donc c'est un énorme investissement qui a conduit SFR à créer un bouquet de chaînes sportives spécialement dédiées à ces épreuves. Il les a baptisées RMC Sport, du nom de sa station de radio, pas moins de 6 chaînes. RMC Sport 1, 2, 3, 4, UHD, ça c'est pour les 4K, et RMC Sport News. Le petit problème, c'est que SFR a choisi de réserver l'exclusivité de ses chaînes à ses propres clients. Donc, si vous recevez la télé par une box SFR, vous pouvez souscrire, ça vous coûtera 9 euros supplémentaires. Bon, c'est pas rien, mais ça reste accessible.
Ouais. Enfin, c'est en plus.
Le problème un peu plus gros, c'est que si vous n'êtes pas client SFR, là, ça va vous coûter 19 euros par mois. Mais alors, il reste un problème qui est quand même encore beaucoup plus important, c'est que même si vous êtes prêt à payer les 19 euros supplémentaires, il faut encore réussir à vous abonner. C'est ce que j'ai voulu faire hier. Je me suis dit, allez, 19 euros, je veux voir PSG Liverpool, et j'ai testé, comme beaucoup d'utilisateurs, l'accumulation des difficultés techniques. En fait, hier, aucune des trois solutions proposées pour s'abonner ne fonctionnait. Ni la box, qui répétait indéfiniment le même message « erreur technique », ni le site internet RMC Sport TV, parce que vous vous disiez, si ça ne marche pas, allez sur RMC Sport TV. Même message, erreur technique. Puis alors, en dernier recours, il vous proposait, il vous disait d'aller voir l'opérateur téléphonique. Donc j'y suis allé, et l'opérateur téléphonique vous conseillait de vous abonner, et vous disait, vous êtes en message d'attente, votre attente est supérieure à 10 minutes. Au bout d'une demi-heure où mon attente était supérieure à 10 minutes, j'ai abandonné.
Oui. Et vous n'étiez pas le seul, je crois.
Mais non, j'étais pas le seul. Mais même les clients persévérants ou chanceux qui avaient réussi à souscrire l'abonnement à temps n'étaient pas au bout de leur peine. Parce que alors hier, on a pu lire une accumulation de messages sur Twitter. Alors par exemple, Bernard Pivot, à 21h02, merci le site SFR d'être indisponible. Merci RMC Sport d'être invisible. Merci le football de vous être vendu très cher à un marchand de téléphone spécialiste de la friture alors que les Coupes d'Europe, c'est du gros poisson. Ou celui de Philippe Labrault, quelques minutes plus tard, à 21h35, Pivot a raison. Même ayant souscrit à un abonnement, on ne reçoit rien. Aucune image. C'est un lamentable foutoir. J'imagine la frustration des gens.
Ah ben oui.
Allez, je continue. Julien Courbet, j'ai parlé trop vite. Pas de deuxième mi-temps sur ma tablette alors que j'ai payé, ça bug. Thomas Soto à 22h19. Là, je vous cite que les,
oui, que les
tweets
que les
de
people,
personnes connues
parce
qu'il y en a
des centaines
et des centaines. Ouais. Et il dit, avant le foot, c'était gratuit. Puis il nous a fallu payer pour le voir. Désormais, on nous demande de payer pour ne pas le voir.
Ouais, c'est assez
et puis
drôle,
Pierre Ménès, ce matin, qui nous dit, voilà, j'ai donc pu royalement voir 5 minutes du match en streaming. Je ne peux donc rien dire sur les matchs de ce soir, mais il y aura un blog quand même, histoire que je déverse mon fiel sur ces incapables.
Et qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vous avez eu le fin mot de l'histoire?
J'ai pas le fin mot de l'histoire. Ce que je devine, c'est que la demande a été énorme, n'a pas été anticipée, et que évidemment, il y a eu embouteillage et bug à répétition. Mais pour être objectif, je dois vous dire, Valérie, que j'ai fini par réussir à m'abonner. Et même avoir des images parfaites sur toutes les chaînes RMC Sport. Bon alors, il était minuit, hein. Tous les matchs étaient finis depuis une heure, donc j'ai payé 19 euros pour rien, mais on ne sait jamais. Peut-être que la deuxième journée se déroulera sans bug technique.
Oui, mais écoutez, en tout cas, ça a beaucoup fait réagir.
Oui, et puis la morale de tout ça, c'est que tout le monde a essayé d'avoir le match, et on s'est aperçu qu'on pouvait avoir le match, ce que vous disiez, gratuit, et on pouvait également avoir du piratage, et beaucoup de gens sur Twitter disaient, bah, moi... je préfère aller maintenant voir le match sur d'autres réseaux et sur d'autres plateformes.
Non, alors les gagnants sans doute de l'opération, c'est quand même l'équipe, parce que l'équipe avait mis en place un dispositif avec deux commentateurs. Alors, il y avait sur toutes les radios qui commentaient, mais là, il y avait tout le système habituel avec le suivi en direct, et on voyait les commentateurs qui sautaient de joie quand il y avait un but du PSG. Et il y avait un côté comédien qui était assez drôle. On va voir les audiences, on les connaîtra demain.
Alors, on a Baptiste en ligne avec nous. Bonjour Baptiste, vous voulez réagir? Vous avez, vous aussi, été victime du bug?
Alors, je n'ai pas été victime. Bonjour d'abord, je n'ai pas vraiment été victime du bug. En revanche, j'ai effectivement suivi ça sur Twitter hier.
beaucoup d'amis qui ont été un peu victimes de ça. Et je trouve ça assez drôle, en fait, de la part de beaucoup. Je pense notamment à Pierre Ménès qui s'est indigné sur Twitter et dans son blog. Alors que moi, à titre personnel, j'ai eu beaucoup de problèmes par le passé avec avec les applications connectées des autres diffuseurs, en tout cas des précédents diffuseurs de la Ligue des Champions. Et on n'en avait pas fait tout un pataquès. Le seul truc qu'on peut éventuellement reprocher à RMC, c'est d'avoir tardé à signer un accord avec avec Canal, un autre diffuseur. Ouais. Bah oui, parce que du coup, effectivement, hier soir, ils ont été débordés par le nombre de connexions juste avant le match, puisque l'accord intervient, je crois, juste avant.
Deux heures avant le match.
Bah oui,
match.
C'est ça. Donc là, peut-être que là, on peut leur faire ce reproche-là. Mais après, pour le reste, oui, quand le nouveau diffuseur arrive, il peut y arriver qu'il y ait quelques bugs.
Pas quand vous avez payé.
Vous êtes bien compréhensif. Parce que malgré tout, d'abord, c'est cher. C'est pour ça que les gens attendent, ont attendu, je pense, un peu la dernière minute avant de voir si oui ou non, est-ce qu'il n'y avait pas d'autres solutions. Bon, puis se résolvant à payer, ils se retrouvent à payer et à pas pouvoir voir le match parce qu'il y a des bugs techniques, c'est quand même inadmissible. Alors, pour préciser, il faut dire que SFR a dit que toutes les personnes qui se sont abonnées avant le début du match auraient un mois gratuit. Oui.
Bon, c'est... Et de manière plus large, tous ceux qui ont rencontré des problèmes, puisque moi j'ai bien vu sur les réseaux sociaux, et je pense que c'était le boss qui était ce matin chez Bourdin, et qui disait, en gros, tous ceux qui ont eu des soucis, de près ou de loin, seront remboursés du premier mois. Bon, alors voilà, effectivement, c'est bien triste. Moi, j'avais devancé le problème. Pour être sûr, je suis allé dans un bar qui recevait le match par satellite et il n'y a eu aucun problème. Quoi.
Ouais, c'était une bonne solution. Merci beaucoup. Merci d'avoir témoigné au micro de Sud Radio. Allez, on est en ligne avec Stéphane Simon. Bonjour Stéphane Simon.
Bonjour Valérie, vous allez bien ?
Ça va très bien, je vous remercie. Vous êtes le producteur de Thierry Ardisson, producteur de l'émission Salut les Terriens et des Terriens du Dimanche. On vous a demandé ce matin de réagir à la polémique. Alors dimanche dernier, Éric Zemmour était l'invité de l'émission de Thierry Ardisson pour parler de son livre Destin français. Et depuis quelques jours, c'est un véritable tsunami médiatique qui s'est emparé de cette...
On s'y perd même nous-mêmes.
Oui, j'imagine. Alors Rémi va nous faire, Rémi Pernelet, un petit rappel des faits pour être très précis.
Oui, simplement pour qu'on se refasse un petit update pour aujourd'hui. Donc bon, la première, c'est les Terriens du Dimanche. Donc Thierry Ardisson recevait Éric Zemmour, une émission d'1h25 avec beaucoup d'échanges. Dans la longueur, on va y revenir. Dès jeudi soir, émission de Touche pas à mon poste, thème « Faut-il encore inviter Éric Zemmour à la télévision ?» Donc une émission... très polémique, avec beaucoup de clash.
Alors que l'émission n'a pas été diffusée.
Après la diffusion, je reste sur ce qui s'est passé à la télé. LCI a commencé dès lundi matin avec un scoop avec Éric Zemmour sur le plateau pour confirmer à Audrey Crespo-Maras ce qu'il avait dit dans l'émission de Thierry Ardisson. Le soir même, Touche pas à mon poste, émission consacrée notamment à l'émission. Jean-Marc Morandini reçoit mardi matin Thierry Ardisson qui revient sur les différents épisodes et notamment ce qui s'est passé avec Absatoussi explique qu'ils ont eu vous avez eu du mal et vous reviendrez là-dessus je pense à la joindre.
Entre-temps Absatoussi a publié des choses sur Instagram.
Absatoussi sur les réseaux sociaux publie une première chose avant et d'autres choses mardi après-midi et enfin hier soir l'émission Touche pas à mon poste à laquelle Stéphane Simon vous avez participé et donc qui est un peu le point où on en est ce matin après cette succession de buzz.
Vous comprenez ce qui s'est passé Stéphane Simon, parce que vous avez fait votre boulot de producteur, puisque vous avez, on va revenir, coupé...
Alors merci de le rappeler, c'est très gentil.
Non mais vous avez coupé une séquence qui a été jugée pas conforme au droit, les services juridiques de C8 vous ont demandé de la couper.
Et ça a été confirmé hier soir par Christine Kelly, qui était un ancien membre du CSA, éminemment concerné par toutes ces problématiques, et qui a confirmé qu'effectivement, nous avions fait notre travail, que nous ne pouvions pas diffuser cette séquence. Et moi, je regrette qu'elle ait été diffusée sur les réseaux sociaux, parce qu'elle fait du mal. Elle fait du mal à tous ceux qui reçoivent ça comme une insulte. Ça me fait évidemment du mal pour Absatou, mais il n'y a pas que pour Absatou que ça me fait du mal. Ça me fait du mal pour tous ceux qui ont entendu cette séquence, qui n'auraient pas dû entendre parce que nous ne voulions pas la diffuser et parce que nous avions une injonction de ne pas la diffuser.
Mais Stéphane, comment vous expliquez que quelqu'un dans une loge, une coiffeuse filme cet extrait. Moi, c'est la chose dont personne n'a parlé. C'est comment,
vous avez raison, c'est vrai.
Pourquoi cet extrait est filmé. Pour le coup, j'ai été dans beaucoup de studios, comme avec Valérie. Moi, je n'ai jamais vu une coiffeuse filmer un écran de contrôle, puisqu'il y a des écrans de contrôle dans les loges. Pourquoi ce moment-là a été filmé dans une loge? Parce que c'est ça qu'on retrouve. Ça serait les bandes de C8 et autres, on pourrait se poser des questions.
Je trouve que vous posez une très bonne question que personne n'a posée jusqu'à présent, c'est qu'est-ce qu'on recherche à travers cette polémique? Nous nous sommes clairement exprimés, Thierry et moi, en disant que les propos d'Éric Zemmour ne devaient pas être diffusés et que nous comprenions parfaitement la peine que Absatoussi ressentait. Donc nous étions vraiment exprimés sur le fond de cette histoire et nous avons apporté toute notre compassion à Absatou. Maintenant, pourquoi aller d'abord organiser l'idée de nous paparazzer de l'intérieur comme ça? C'est-à-dire, on se sent quand même presque épié par des gens de notre équipe. C'est quand même un peu gênant. Ça, c'est sûr que ça crée pas une très bonne confiance. Ça, c'est sûr que là, d'un seul coup, on se dit, mais c'est bizarre de réagir comme ça, à moins qu'on veuille nous piéger, je sais pas. Mais c'est malsain.
Pourquoi elle a réagi au lendemain de la diffusion de l'émission? C'est-à-dire que l'émission a été enregistrée le jeudi et la polémique a éclaté le lundi matin, enfin le dimanche après la diffusion de l'émission. C'est-à-dire qu'elle a été surprise que la séquence ait été coupée. C'est ce qui a provoqué, à votre avis, sa réaction?
Elle peut pas être surprise, puisque je lui ai dit dès le vendredi matin que nous ne pouvions pas garder ses propos. Elle a estimé, c'est son droit, mais malheureusement c'est pas un droit informé auprès du CSA, elle a estimé qu'on aurait dû diffuser intégralement cette séquence. Mais je suis désolé, on peut pas se mettre en contravention de la loi, d'autant plus qu'il y a quelques années, en 2010, on avait déjà eu des problèmes dans Salut les Terriens avec Éric Zemmour. Donc si vous voulez, si vous récidivez, c'est que vraiment vous êtes idiot. Ou gravement complice. Donc, si vous voulez, c'était pas du tout notre ambition cette fois-ci. Donc, je pense que elle a voulu quand même nous tordre un peu le bras, parce que, pardon, mais ça se fait pas de dire, si je vais moi diffuser des extraits que vous, avec la chaîne, avec la pleine discussion et le plein dialogue avec la chaîne, on a décidé de ne pas diffuser et elle diffuse de son côté. Ça veut dire qu'elle se substitue au directeur de la publication, entre guillemets. C'est-à-dire, c'est celui qui décide qu'on est ou pas attaquable sur un sujet. Donc, c'est pas possible. Ça, c'est pas faire dans une équipe. C'est pas du tout un bon esprit.
On va y revenir. Restez avec nous, Stéphane Simon. Restez avec nous sur Sud Radio. On se retrouve dans un instant pour poursuivre ce débat.
Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert.
De retour avec vous dans le studio de Sud Radio, en ligne avec Stéphane Simon, producteur de Salut les Terriens et des Terriens du Dimanche. On revient sur la polémique qui oppose Absatoussi à Éric Zemmour et à Thierry Ardisson, puisque aujourd'hui c'est un conflit qui vous oppose à elle. Elle a diffusé diffusé une séquence qui avait été coupée par le producteur, donc elle se met en faute vis-à-vis de vous. Et puis Thierry Ardisson, lui, a répliqué hier chez Jean-Marc Morandini en disant que vous aviez été sympa, parce que c'est vrai qu'on a reproché à Ardisson de ne pas avoir soutenu Absatoussi. Lui a répondu qu'il lui avait avancé de l'argent, donc c'était une certaine manière de dire qu'il la soutenait. Est-ce qu'il l'a soutenu suffisamment ?
Écoutez, d'abord Thierry, il gère beaucoup de choses dans sa vie, donc oui, il l'a soutenu, peut-être pas assez à son goût en tout cas, et ça on peut parfaitement comprendre qu'elle estime qu'elle a été victime d'une telle attaque, qu'il aurait fallu que Thierry lui envoie peut-être davantage de brassées de fleurs, mais bon, on va pas revenir éternellement là-dessus. Je pense qu'en tout cas nous, on a été assez clair. On lui a dit qu'on la soutenait. On lui a dit qu'on tenait à sa présence dans l'émission à plusieurs reprises. Après, Thierry, il a peut-être été maladroit quand il a dit on lui a avancé de l'argent. Est-ce que c'était vraiment utile de le dire? J'en sais rien. Mais en tout cas, c'était juste histoire de dire qu'on la considère. Et on a, je dirais, travaillé en confiance pendant plus d'un an avec elle. Ça s'est bien passé. C'est jamais plein du montage parce que cette émission, elle est montée, elle est enregistrée et elle est montée. Donc, il faut quand même pas maintenant nous faire un procès. Nous, on n'est pas les complices d'Éric Zemmour, donc il n'y a rien à voir et à discuter là-dessus.
Justement, Stéphane Simon,
Rémi Pernelet.
Dans le replay, toute cette, la séquence qui concerne justement le prénom, Corinne, enfin quand Éric Zemmour dit oui, vous auriez dû vous appeler Corinne, en fait vous avez tout enlevé. Et
Sur
le replay, il n'y a plus de séquence du tout.
Ah, alors ça, ce n'est pas nous qui gérons le replay, c'est C8 qui.
Et du coup, l'émission se déroule de façon assez. Elle est tout aussi intéressante. Et en fait, la question que je vais vous poser, c'est est-ce qu'il n'aurait pas fallu tout enlever? Est-ce que vous n'en avez pas gardé un petit bout pour quand même qu'il y ait une aspérité au risque de provoquer ce qui s'est passé?
Alors, je vais rappeler deux choses, que les gens n'ont pas nécessairement tous vu l'émission, mais en l'occurrence, on faisait un jeu. Normalement, un jeu, ça dérape jamais. On fait un jeu qui rappelle les éléments marquants d'une personnalité. Donc, on a repris Éric Zemmour depuis sa naissance jusqu'à maintenant. Et c'est vrai qu'on se souvient tous qu'il avait eu une altercation assez forte avec Rachida Dati et Nicolas Sarkozy, puisqu'il avait aussi reproché à Nicolas Sarkozy d'appeler sa fille Julia. Donc, c'est à l'occasion de ce rappel-là que la discussion a bifurqué autour de la table. Et moi, j'ai voulu laisser aussi le fait qu'il s'en est pris à Natacha Polony, dont il aurait aimé qu'elle s'appelle Nathalie, à Gilles William Golnadel, parce que William...
Tout ça, c'est enlevé dans le replay. Qu'est-ce que vous en pensez,
Moi, je trouve que il y avait rien, en tout cas, d'attaquable là-dessus, parce que moi, encore une fois, je ne suis pas là pour juger des opinions, mais simplement, je suis là pour enlever les passages qui, juridiquement, sont attaquables. Mmh. Et ça ne l'était pas. Ça relève de l'opinion. Et je suis, moi, évidemment, contre toute forme de pensée, de censure de la pensée. On n'est pas là pour ça. Je pense que tout le monde peut exprimer des opinions, même quand elles me déplaisent souverainement. Et donc, je trouve que c'était peut-être pas la peine d'enlever ça sur le replay. J'étais pas au courant, c'est vous qui me l'appelez.
Il y a une forme de aujourd'hui d'hystérisation médiatique, c'est-à-dire qu'on est dans un débat télévisé, enfin moi c'est ce que je ressens, on est dans un débat, on sait qu'on a Éric Zemmour en face, on sait ce qui risque de se passer, et après il y a tout un emballement, une mayonnaise médiatique qui prend, qui me sidère.
C'est vrai, et il faut quand même noter que Éric Zemmour, depuis le début de la semaine, il doit quelque part se frotter les mains, parce qu'il a été invité un peu partout. Il a lancé de façon spectaculaire son livre. Bon, il était déjà numéro un avant de commencer. Donc c'est pas à cause de son passage dans les Terriens que sa petite entreprise prospère. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en tout cas, on en fait des caisses et des caisses et des caisses. On peut comprendre qu'il y ait de la douleur, qu'il y ait de l'émotion, etc. Et on peut regretter tout ça. Après, est-ce qu'il faut inviter ou pas Éric Zemmour? C'est une question qui reste entière. Mais jusqu'à preuve du contraire, quand il sort des livres, il sort des livres qui ne sont pas interdits, qui sont des phénomènes de société, et notre rôle, nous, médias, c'est quand même de rendre compte de ce qui se passe dans la société.
Alors moi, je suis d'accord avec vous, Valérie, surtout que la séquence, elle s'appelle, quand vous l'analysez, la regardez, ça s'appelle les mercenaires, c'est-à-dire les sept face à l'invité, c'est la nouvelle rubrique de la nouvelle formule, donc ça veut dire les sept vont s'attaquer à l'invité.
C'est
la règle. Ouais. Donc c'est normal qu'ils se défendent. Donc c'est la règle du jeu. Quand vous êtes chroniqueuse, vous le prenez pas à titre personnel. Vous êtes dans un rôle de chroniqueuse. Et ensuite il y a ça. Moi je voulais vous faire réagir suite à votre passage upset aussi a tweeté pas de mots mais beaucoup de mots MAUX. Stéphane, toi que je respectais tellement, tu as été malhonnête ce soir. Pour conclure, tu le sais, personne n'a été insulté comme je l'ai été. Vous avez été malhonnête?
Bah non, je vois pas à quoi elle fait référence, mais quel détail, en quoi je suis malhonnête. Ça, c'est le genre de choses que je trouve assez disgracieux, c'est-à-dire de lancer des accusations comme ça, sans fondement, sans explication. Je trouve pas ça bien. Voilà, je trouve que ça aussi, ça participe. Je voudrais que tout le monde se calme. En vérité, je vais vous dire la vérité, c'est que j'aimerais que tout le monde se calme dans cette affaire. J'aimerais qu'on laisse un peu reposer tout le monde et que, à tête reposée, on se reparle ensuite. Mais là, c'est compliqué, on peut même pas
la joindre. Elle sera là jeudi ou pas, l'enregistrement?
Je ne peux pas vous répondre. Hier, je lui ai demandé 3 fois si elle venait à l'émission, elle m'a dit non, là l'émission elle est demain, donc ça va devenir, elle peut pas venir sans avoir préparé, donc on va laisser passer cette semaine et puis on verra, mais là je ne pense pas que dans un climat d'hystérique généralisé comme ça, ce soit très sain que en fait on ait une émission comme si de rien n'était dimanche. Je pense
elle sera pas là jeudi en tout cas. Elle menace Thierry Ardisson de balancer du lourd. Vous savez ce dont il s'agit? Vous avez une idée?
Très sincèrement, je sais pas. Alors, elle doit filmer les coulisses depuis un certain temps de l'émission. Alors, si c'est ça le lourd, y a rien à redouter. Dans le fond, c'est juste des discussions entre nous, des choses comme ça. Mais moi,
les fins de tournage qui peuvent peut-être être un peu animées.
C'est l'information
et un peu plus libre.
Mais c'est ce qui se passe dans tous les médias. On discute, on n'est pas d'accord les uns les autres. Parfois, on est un peu cash, des choses comme ça. Mais enfin, c'est normalement des.
C'est ça, l'information que vous avez, Rémi.
En fait, c'est quand même pas chic, vous en conviendrez. C'est quand on travaille en équipe, de se faire enregistrer à notre insu, c'est quand même assez disgracieux. Hein.
Si vous saviez ce que j'ai sur Valérie Expert, c'est dingue.
Ah oui.
Une dernière question, il y a une petite opposition qui démarre entre Cyril Hanouna et Thierry Ardisson. Je vois quand même que, franchement, le débat, faut-il encore inviter Éric Zemmour à la télévision, enfin tout ça, on sent qu'il y a une petite fâcherie, on dirait, non ?
Oui, ben nous, on ne rentrera pas dans cette forme de guérilla-là, ça ne nous intéresse pas. Moi, en tout cas, je montre, quand il m'invite, hier soir, je suis allé, même si en face, il y avait un dispositif très agressif en face de moi. Ah oui. J'avais quand même combien de personnes ? Une dizaine de personnes en face de moi. Ouais. Ça fait quand même beaucoup pour un seul homme, mais tant pis. Mais je rentrerai. La preuve qu'on ne fait pas, nous, une quelconque guerre, que ce soit à notre ami Cyril Hanouna, Cyril, on ne fait aucune guerre à Cyril, c'est que je suis allé en face. J'ai participé à l'émission, voilà.
Merci beaucoup, merci Stéphane Simon d'avoir été avec nous sur Sud Radio ce matin. Et puis effectivement, il faudrait que les choses se calment un petit peu. On va suivre, mais je pense qu'il y aura des suites, évidemment.
Ça devrait pas sur la place publique. Dimanche. Vous avez qui dimanche comme invité ?
Alors, on va faire une émission très, très intéressante avec le professeur Kayat. On va parler du cancer. Pourquoi est-ce qu'il faut un peu plus d'espoir aujourd'hui? Pourquoi
ce sera un peu plus calme, un peu plus serein, on va dire.
On va dire qu'on va parler de la vie quotidienne des gens, des vrais problèmes aussi, et pas des polémiques vaines.
Merci Stéphane Simon. Restez avec nous sur Sud Radio. On se retrouve dans un instant.
Sud Radio, le 10h midi, les médias. L'invité du jour.
L'invité du jour, c'est Elsa Fayer. Bonjour Elsa.
Bonjour.
Ça va bien ?
Ça va. Bon, la voix un peu voilée, mais je vais faire ce que je peux.
Vous avez la voix un petit peu cassée. Vous êtes là pour nous parler donc de 10 couples parfaits, saison 2. L'année dernière, 10 femmes et 10 hommes avaient réussi à former 10 couples parfaits, à remporter 200 000 euros, cette somme qui leur était attribuée. On va y revenir, mais je commence toujours par l'instant Google. J'ai googlisé votre nom pour savoir ce que les gens voulaient savoir de vous. Alors, ce qui arrive en premier, c'est Marie.
Ah bon, ça, vous voyez, hein, voyez, comme quoi c'est gens, pas pour rien que je marie les gens à la télévision.
Donc vous êtes mariée.
Mariée, ouais, je suis mariée.
Après, il y a taille. Les gens veulent savoir combien vous mesurez.
Alors, c'est une vraie question. C'est marrant que vous l'abordiez parce que les gens sont toujours très surpris quand ils me voient en vrai. Ils imaginent tout ce que je mesure 1m70 et je fais 1m62. Donc, si vous voulez, moi, je suis ravie parce que j'aurais adoré faire 1m70. Et si les gens me voient comme ça,
Donc, il y a une vraie interrogation là-dessus.
Ça ne les empêche pas de dormir non plus, mais voilà.
Voilà. Alors, il y a parents. Je ne sais pas pourquoi. On s'interroge sur vos parents. Qui sont vos parents? Il y a une raison, à votre avis pour,
Ça, j'ignore. Il faudrait leur poser la question.
Pourquoi les gens recherchent ça? Après, il y a maman.
Oui. Je suis mère de 3 enfants.
Voilà. Mm-hmm. Et puis, il y a jeune et avant. Donc,
jeune et avant. Ah, ça, c'est quand on commence à vieillir. Ça, généralement, c'est mauvais signe.
Je suis désolée, c'est ce qui vient. Donc, c'est mauvais jeune signe. Et avant. Mais en même temps, en préparant l'émission, j'ai vu que vous aviez commencé en 82 à la télévision avec Karen Cheryl.
Oui, alors, c'était pas vraiment commencé à la télévision. Hein. C'était vraiment un amusement. À l'époque, j'étais dans une école de danse et voilà, on m'avait repéré pour animer une pastille qui s'appelait Vita Boon et qui était une émission sur TF1, quoi. Ouais. Non, mais j'en ai fait quelques-unes, mais vraiment, j'avais conscience de rien. On y allait pour prendre, pour faire signer des autographes à Cognac G, à Yves Mourouzi et à Dorothée qui était pas loin. C'était plus.
Donc, il y a une curiosité pour jeunes et avant.
Il n'y avait pas ça, parce qu'à une époque, vous voyez, votre.
C'est marrant, j'en ai plus depuis. C'était à l'époque de Ruquier. À l'époque de Ruquier, je sais pas.
Vous aviez communiqué sur le fait de vous avoir fait refaire un sein.
Oh non, j'avais pas communiqué dessus. Il se trouve qu'on en a parlé. Moi, j'ai pas grand chose à cacher et que je l'avais dit.
Vous l'aviez dit. Donc voilà, ce n'est pas ce qui apparaît en tout cas. On va passer au quiz télé pour mieux vous connaître.
Sud Radio, le 10h midi, les médias. Et c'est l'instant quiz.
L'instant quiz. Qu'est-ce que vous regardez à la télévision que vous ne ratez jamais ?
Je regarde tout à la télévision, je ne rate pas grand-chose. Qu'est-ce que j'aime ? Oui, j'adore la télévision. Qu'est-ce que je ne rate pas ? Les infos principalement, parce que je passe de LCI à BFM,
Donc les chaînes d'infos ?
Ouais, les chaînes d'infos principalement. Après, les émissions d'investigation, tout ce qui est documentaire, The Voice... Qu'est-ce que je rate pas, Danse avec les stars. Enfin, tous les gros événements télévisuels, ça, je les rate jamais parce que je trouve que, voilà, ça reste le dernier média où on peut vivre tous ensemble quelque chose en commun. Et c'est pour ça que j'aime la télévision. C'est pour vivre tous ensemble, regarder les mêmes images, se poser les mêmes questions, se réjouir aussi.
Qu'est-ce que vous n'aimez pas à la télévision? Alors là, je suis rassurée, parce que tout le monde me répond la télé-réalité. Donc là, je me dis, je vais peut-être avoir enfin une réponse différente parce que c'est tellement facile de répondre à la télé-réalité.
Oui, oui. Oui, ça, c'est sûr que c'est très facile.
Alors, qu'est-ce que vous n'aimez pas?
Écoutez, il n'y a rien que j'aime pas à la télévision parce que j'ai toujours un regard, voilà, j'ai un regard un peu professionnel sur la télévision, donc il n'y a pas grand-chose qui ne m'intéresse pas. Non,
vous n'avez pas de...
Téléachat, tout, vous regardez vraiment tout.
Je peux vous dire que je regarde même le téléachat, et d'ailleurs j'achète beaucoup de choses.
Et vous achetez, oui, c'est ça?
Oui, non, mais c'est terrible, je me laisse avoir tout le temps, quoi. J'ai même acheté le contour des yeux à la Bape d'Escargot. Je ne l'ai pas encore mis, je ne l'ai pas encore mis parce que ça me fait un peu peur, mais disons qu'ils m'ont eu, quoi. Ouais. À force de me rabâcher que ça marchait, j'ai dit allons-y, ne ratons pas.
Qui tient la télécommande?
C'est moi.
C'est vous, oui. Ouais. Les enfants, non, pas
les enfants, ils regardent beaucoup, comme toute cette génération. Moi, j'ai deux petites jumelles de 8 ans et une ado, enfin une jeune femme maintenant de 19 ans. Ouais. Les enfants, ils regardent principalement sur les écrans. Ouais. Donc oui, la télévision, c'est plutôt moi.
Et c'est vous qui tenez... Et vous la regardez où, la télévision?
Je la regarde dans mon salon. Et alors, je vais vous dire quelque chose d'horrible. Oui. Allez-y. Qui ruine le couple dans mon lit.
Dans votre lit, ben voilà, j'étais pour ou contre la télévision dans la chambre.
Ah oui, c'est très mal.
C'est très mal.
Mais en même temps, c'est. Voilà, à un moment, il faut bien se reposer aussi. Donc voilà.
Elsa Fayard, votre émission culte, une émission qui vous a marqué?
Oh, mon émission culte. J'adorais les émissions quand j'étais petite. Les émissions de Patrick Sabatier me faisaient rêver. J'ai trouvé formidable toutes ces surprises, toutes ces gens, toutes ces personnalités qu'on découvrait. Je ne manquais pour rien au monde Champs-Élysées avec ma grand-mère. C'était notre rendez-vous du samedi soir.
Vous pouvez chanter le générique?
Et ma grand-mère adorait Nana Mouskouri. Et quand il y avait Nana Mouskouri à la télévision, c'était incroyable.
C'était la fête.
Elle commentait toutes les robes. C'était un moment de partage. Mes parents n'étaient jamais là le samedi soir. C'était un joli moment. J'adore cette télévision où on mettait les gens en valeur, où il y avait des chorégraphies, où il y avait des super décors. Voilà. Je suis nostalgique.
L'émission que vous aimeriez animer?
J'aimerais animer un talk show. Pour les femmes, qu'on parlerait d'actualité, de culture, de société, de vie pratique, parce que
les
en a besoin.
Pas regarder la même chose que les femmes.
Bien sûr. Oui. Moi, j'exclus jamais les hommes. D'ailleurs, je suis pour une co-animation avec un homme parce que le regard masculin sur tout ce qui nous attire est très important.
Allez, on va passer donc à votre actualité avec l'arrivée donc de 10 nouveaux couples, enfin 20 personnes, 10 hommes, 10 femmes. Mm-hmm. Vous allez essayer de former des couples parfaits. C'est donc sur TFX. Alors racontez-nous, comment vous êtes arrivé là? Parce que vous avez une carrière quand même assez remplie. Vous avez été chroniqueuse chez Laurent Ruquier. Vous avez été avec Laurent Fontaine, avec Pascal Bataille. Vous avez fait des tas de choses.
Oui, chercher un mari, comment ça s'appelait
Mon incroyable fiancé.
Oui, c'était génial, mon incroyable fiancé.
Vous êtes devenue une marieuse.
Écoutez, je ne sais pas, mais alors, vous n'êtes pas la première à me le dire. Je m'en étais pas trop aperçue, mais c'est vrai qu'on me confie beaucoup des missions de dating, en tout cas de couple sur le groupe TF1. Et moi, ça me va très bien parce que j'adore. Je trouve que c'est très positif de trouver son âme sœur. C'est très positif de trouver enfin la personne qui nous convient. Donc cette émission, c'est 10 hommes et 10 femmes qui ne se connaissent absolument pas avant de débarquer dans ce programme. Ils se voient pour la première fois sur le perron de la maison. Et en fait, face à eux, ils ont leur alter ego, leur âme sœur, une personnalité qui leur est désignée, qui a été cherchée. Non, pas par machine. Il y a un matchmaker qui s'occupe vraiment de définir.
Matchmaker.
Oui, un spécialiste en tout cas en relations amoureuses qui travaille avec eux pendant de longues semaines pour vraiment connaître leurs désirs, leur vraie personnalité, leurs envies et pour pouvoir leur mettre en face. Sans qu'il sache qui, évidemment.
La personne qui serait le
plus compatible avec elle.
Et, il faut qu'il la retrouve.
Voilà, le but du jeu, ce serait trop simple si on vous disait c'est lui ou voilà, c'est elle.
Il faut qu'ils arrivent à se retrouver.
Il faut qu'ils se trouvent. Voilà, il y a 10 couples qui se cachent parmi eux et il faut qu'ils se trouvent tous. C'est un jeu collectif parce que la cagnotte est commune. Mmh. Donc, ils ont 200 000 euros.
200 000 euros, qui est un couple ou 10 couples, il y aura 200 000 euros. Alors, l'année dernière, il y en a eu 10.
Il y a 200 000 euros oui, uniquement en tout, c'est si ça, les 10 couples parfaits sont reconstitués. Ah, s'il en manque, ils perdent tout.
Ah, d'accord. Ah, oui, donc... Rémi, au niveau audience, ça marche plutôt bien.
Ce qui fait, Valérie, c'est que vous trahissez, parce que vous pouvez tomber amoureux d'une fille qui n'est pas votre bon binôme. Mais vous, vous êtes amoureux, vous n'avez pas envie de chercher votre autre binôme. Ah, oui. Donc là, stratégie.
Stratégie.
Oui, pour les audiences, ça a bien marché, puisque en fait, on est en une moyenne, vous avez communiqué sur une moyenne de 405 000 téléspectateurs sur cette tranche.
On est même arrivé à 600 000.
À 600 000 parfois, oui. Et donc, ce qui est une bonne audience, puisque si je compare par exemple à la Villa qui est diffusée en ce moment à peu près à la même heure sur la même chaîne, c'est plus de deux fois plus. Donc, oui, c'est un bon score. Voilà. Donc,
c'était une jolie surprise. On a reçu un très bel accueil pour cette première saison. Le concept est pas facile parce que voilà, c'est un vrai jeu de dating. Ils ont des rendez-vous qui ponctuent leur semaine avec une mécanique importante sur laquelle repose le programme et qui va leur permettre aussi de se dépasser en permanence.
Il y a des épreuves, il y a des rencontres pour voir, des occasions qui sont créées pour qu'ils se rencontrent.
Mais on est d'accord qu'ils recherchent plus la célébrité que l'amour en fait.
Non, franchement, j'ai pas le sentiment que c'est ça dans ce jeu. D'abord, ils ont pas le temps de se poser la question parce que y a une cagnotte à gagner en commun, que tout le monde s'implique un peu dans la vie des autres et ça c'est assez drôle parfois. Parfois, ça peut aller loin, mais c'est assez drôle parce que ils s'impliquent tous dans la vie des autres. Ils s'aident tous, en tout cas, parce que la cagnotte est commune.
Ça crée pas, comme le disait Gilles tout à l'heure, des situations artificielles, c'est-à-dire que voilà, on essaye de matcher au maximum.
Ils n'ont pas de certitude. Ouais. Ils n'ont pas de certitude. Seul l'élément de la Love Machine peut leur apporter des certitudes. Ils en ont 10, pas une de plus.
L'année dernière, ils ont eu 10 sur 10. Hein.
Ils ont eu 10
sur
10.
Et ça a donné quoi, la suite de leurs aventures, une fois que les caméras sont éteintes?
Oui, il y en a certains qui sont restés ensemble. Oui, après, il y a une...
15 jours?
Non, bien plus que ça. Non, il y a eu des couples.
Des vrais couples.
Après, vous savez, le but c'est pas de repartir avec son mari ou de repartir avec sa femme. Le but c'est un champ des possibles.
Repartir avec l'argent.
Non, oui, repartir avec l'argent c'est un plus, c'est un bonus. Évidemment que c'est un stimuli. Ça leur permet quand même de se dépasser, de sortir de leur zone de confort parce qu'ils ont que 10 semaines et qu'il faut qu'ils se trouvent et qu'il faut qu'ils avancent un petit peu sur le profil amoureux qu'ils se destinent, qui est parfois tout autre. Et c'est tout l'enjeu du programme.
Mmh. Bon. Après, moi, j'ai envie un peu de faire le poil à gratter. C'est-à-dire que, si vous voulez, on a un peu l'impression, malgré tout... Alors d'accord, il y a l'artifice de « il faut trouver son âme sœur pour partir avec 10 000 euros ». Mais malgré tout, finalement, on voit une pléiade d'émissions avec des mannequins, garçons, filles, plus ou moins, une quinzaine.
Qu'est-ce que vous appelez des mannequins?
Les ch'tis, les Marseillais, la villa...
Ouais, chaque concept est différent,
Et donc, au fond, est-ce que c'est quand même pas un peu tout ça la même chose, avec juste de la télé-réalité pour faire en sorte que des filles avec en bikini et des garçons torse nu s'engueulent?
Non, je pense que comme dans toutes les émissions, il y a talk et talk, il y a magazine et magazine, il y a télé-réalité et télé-réalité. Là, il se trouve que c'est un jeu de télé-réalité, c'est un jeu de dating. Les gens ne sont pas des mannequins, ce n'est pas leur métier.
Il y en a qui sont présentés comme ça.
Vous voulez dire que ce sont des belles personnes?
Non, mais même dans les quand vous regardez les présentations de vos différents candidats, il y en a au moins deux ou trois qui sont indiqués comme mannequins.
Non, mais si, ce ne sont pas des mannequins reconnus. Ce ne sont pas des mannequins reconnus internationalement, ce ne sont pas des gens qui viennent se vendre, ce sont des gens qui ont des problèmes à trouver l'âme sœur, à trouver l'amour, qui vont d'échec en échec et qui à un moment ont envie, ont la curiosité en tout cas, de se laisser tenter par une aventure où on leur prédestine une personne qui leur correspond. À un moment c'est bien aussi, ils viennent tous en se disant voilà, je suis quand même curieux de savoir qui me correspond vraiment.
Par contre, après, qu'est-ce qu'ils font dans la vie? Des passages où c'est quand même les clashs entre les filles, là j'ai vu ça... dans les différents passages de la saison dernière, je vais vous dire que quand même, ça a reproché aux Marseillais. Hein,
Non, écoutez, moi, j'ai rien contre les Marseillais. D'ailleurs, ça fait une audience fantastique. Donc, il y a beaucoup de gens qui adorent et qui se régalent de saison en saison. Il y a de la place pour tout le monde. Il se trouve que c'est pas du tout le même concept. Ce n'est absolument pas le même casting. On n'est pas sur des gens qui ont l'habitude de faire de la télé, mais on est sur des gens qui démarrent, qui commencent, qui vont affronter des caméras de télévision. Et c'est pas simple. Ce sont des personnes qui ne se connaissent pas quand elles entrent dans ce jeu. Il faut s'apprivoiser, il faut faire connaissance, il faut se tester, il faut se découvrir, il faut se trouver. Donc ils ont vraiment du boulot, ils n'ont pas tellement le temps de se poser d'autres questions que cela. Moi je les trouve très authentiques et le deuxième casting l'est tout autant. Ils sont authentiques, ils sont sincères dans leur démarche. Après, vivre en communauté pendant 10 semaines à 20 personnes, je vous mets au défi de ne pas avoir un coup de sang avec une personne.
Vous, quel est votre rôle dans l'émission? Vous êtes là pour tenter d'apaiser un peu?
Non,
vous les voyez en dehors?
Je suis pas animatrice d'école ni quoi que ce soit. Non, moi je représente le programme, les enjeux du programme avant tout. Ça reste un jeu, il y a de l'argent à la clé, malgré leur démarche pour trouver l'âme sœur. Il y a des règles à respecter.
Vous n'êtes pas maîtresse d'école, mais vous avez viré un couple dans la première saison, là, je vais vous dire.
Vous avez triché.
C'était quand même glacial.
Hein. Il faut respecter aussi, oui, c'était glacial. C'est vrai que nous étions tous extrêmement surpris. Nous étions très déçus aussi.
Ils se connaissaient en fait, c'est ça.
Ils se connaissaient d'avant. Et d'ailleurs, le spécialiste en relations amoureuses a très bien fait le job, puisqu'ils étaient déjà sortis ensemble avant l'aventure. Ils nous l'avaient caché et ils les avaient mis ensemble en compatible. Donc. Mais voilà, dans cette émission, il y a quand même un... Voilà, c'est tout le monde joue franc jeu. On vient dans cette émission parce qu'on recherche l'amour, parce qu'on a envie de changer des choses. On a aussi envie d'apprendre à se connaître, parce que pour trouver l'âme sœur, il faut d'abord se connaître un peu soi. Et c'est une expérience qui est faite aussi pour ça, pour les aider à se découvrir et pour qu'ils découvrent aussi leur alter ego.
Vous avez inventé le concept de l'émission de cet été qu'on a vu, Audition secrète sur M6. Ouais. Vous l'aviez proposé à TF1?
Alors, je vais, pour être tout à fait honnête, quand on l'a proposé à M6, en fait, ça les a tout de suite séduits. Donc, je n'ai pas eu le temps de faire le tour des chaînes. C'est plutôt positif, on va dire.
Parce que vous avez dit, ce format, c'est pour M6.
Oui, quand on écrit, évidemment, on va pas écrire n'importe quoi pour on sait à peu près où ça peut arriver. TF1 a un formidable talent show qui est The Voice, qui performe d'année en année, qui est un des formats les plus forts au monde. Je ne me voyais pas bien arriver avec un concept de talent show de cette envergure-là. Donc, il m'a paru comme quelque chose de judicieux et d'évident d'aller voir des chaînes qui en recherchaient. Et voilà pourquoi les choses ne sont pas faites. Mais avec TF1, on discute de programmes que j'ai écrits aussi.
Merci Elsa Fayère. Et on vous retrouvera donc lundi à 17h45 pour les deux premiers épisodes de ces couples parfaits. Allez, nos pronostics. Les 30 secondes pour convaincre. Je suis perdue, moi, ma perte.
Sud Radio, le 10h midi, les médias. Vous avez 30 secondes
choses,
pour convaincre.
Il y a deux choses, faut les mettre dans l'ordre.
Voilà, il faut les mettre dans l'ordre. C'est compliqué, moi. Un, deux, ça va pas. Pourtant, j'ai un conducteur sous les yeux. 30 secondes pour convaincre. Donc, ce soir, c'est un film qui est proposé, un documentaire, sur France 3, La police de Vichy. C'est un film qui retrace les années noires de la police française, la collaboration, la traque des communistes. Nous avons avec nous son réalisateur, David Cornbrosa. Bonjour, vous avez 30 secondes pour nous convaincre de regarder La police de Vichy ce soir.
Je vous propose une nouvelle histoire de l'occupation vécue à travers la police, avec bien sûr, comme dans tous mes films, des archives inédites, comme des photos incroyables de la destruction de vieux ports, ou bien sûr à propos de la rafle du Vel'd'Hiv. Vous verrez à quel point la police s'est rendue complice du pire. Les responsables de Vichy ont été au-delà des demandes allemandes, en rappelant les juifs, en traquant les communistes. Mais vous découvrirez que ce fut aussi un âge d'or de la police, elle s'est réformée, et la police nationale est née sous le régime de Vichy, et ça souvent on l'ignore. Elle y a perdu aussi son honneur et son âme, malheureusement. Est-ce qu'il y a eu des résistants dans ses rangs? Vous le découvrirez aussi ce soir. Et c'est une œuvre de découverte et de mémoire qu'il faut absolument voir.
Alors, ce sera ce soir donc sur France 3 à 20h50. Enfin, on n'a pas donné les horaires de départ, mais ce sera plutôt 21h10. Alors ce soir, moi je dis Alex Hugo, évidemment.
Oui, sur France 2. Esprit criminel. Et il reste c'est entre Esprit criminel sur TF1 et Les meilleurs pâtissiers sur M6 que ça va se jouer. Moi, je pense que TF1 sera avec Esprit criminel numéro 2.
Moi aussi.
Bon, moi je pense que Alex Hugo en premier. Et je vais parier sur Blanche Gardin sur C8, moi.
En numéro 2. On verra demain. Merci à tous les deux. On se retrouve, nous, dans quelques instants pour commenter l'actualité, en particulier l'audition d'Alexandre Benalla qui est en train de se terminer en ce moment même.